écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
L'État au total apportera un peu plus de 8 milliards d'euros d'aide au secteur.
De l'argent pour inciter les Français à acheter des voitures. Prime à la casse, prime à l'achat, le gouvernement sort le chéquier pour sauver le secteur de l'automobile. L'hydroxychloroquine ne pourra bientôt plus être administrée contre le Covid-19, ni à des patients gravement atteints, ni lors d'essais cliniques. Tant pis pour Didier Raoult, les spécialistes ont tranché.
On lui reproche d'avoir des signaux dans des études observationnelles qui ne vont pas dans un sens favorable.
Les personnes qui ont été malades, même sans symptômes violents, sont bien immunisées et protégées. Une nouvelle étude rassurante vient d'être publiée. L'application Stop Covid va-t-elle nous précipiter dans une société de la surveillance à l'approche de son lancement? Ce dispositif de traçage, de contact pour lutter contre l'épidémie suscite toujours de vives inquiétudes pour les libertés.
Il faut utiliser ces données-là à bon escient. Et ça, j'en doute pas que ça sera à bon escient. C'est pour nous protéger, mais il faut que ce soit temporaire et que ça se termine une fois que tout est levé.
Elle est de retour. Agnès Buzyn sort de son silence et confirme qu'elle sera bien candidate pour le second tour des municipales à Paris. Et puis Didier Gayaguet, l'ancien président de la Fédération française de patinage, poussé à la démission en plein scandale sexuel, réclame 300 000 euros au titre de préjudice. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 1,46%. Didier Hamot de boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières. Soleil radieux et grande douceur demain encore. Une nouvelle journée estivale nous attend avec des températures plus chaudes qu'aujourd'hui. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Philippe Gombert, le président des Relais et Châteaux, qui sont prêts à rouvrir.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est un plan qui était très attendu par un secteur particulièrement sinistré. Emmanuel Macron a donc annoncé aujourd'hui une série de mesures visant à soutenir la filière automobile et en particulier la production de véhicules propres. Encore une fois, donc, le gouvernement sort le chéquier, plus de 8 milliards d'euros, avec un objectif, Aurélien Fleureau, relancer les ventes et donc faire revenir les clients dans les concessions.
Oui, avec des primes revues à la hausse et qui vont concerner plus de Français. Il s'agit évidemment de la prime à la conversion, la prime à la casse. 75% de foyers désormais éligibles, ceux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 18 000 euros. Ce sera donc 5 000 euros pour une voiture électrique et c'était très attendu par les professionnels pour justement écouler leur stock. 3 000 euros pour les voitures thermiques, donc essence ou diesel les plus récentes. Cela va concerner 200 000 véhicules, donc premier arrivé, premier servi dans les concessions. Toujours pour l'électrique, qu'il sera possible de cumuler avec une prime à l'achat, un bonus écologique porté à 7 000 euros pour les particuliers. Et puis une nouveauté, 2 000 euros pour les hybrides rechargeables. Donc mettre le paquet sur les véhicules propres, on l'a compris, c'était l'ambition affichée cet après-midi par Emmanuel Macron.
Faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe, en portant à plus d'un million par an sous 5 ans la production de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides, et de consolider en parallèle notre empreinte industrielle.
Et pour accompagner ce parc grandissant de voitures électriques, le réseau de bornes de recharge va se densifier. L'objectif de 100 000 bornes en France en 2022 a été avancé d'un an.
Et alors en échange de ces mesures, il y a des contreparties, Aurélien, les constructeurs ont pris des engagements.
Ah oui, et le chef de l'État a notamment été très ferme concernant Renault. Le prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros ne sera signé qu'avec des engagements forts sur l'emploi, en particulier pour les deux sites de Douai et de Maubeuge. Et puis sur la production en France, Renault va relocaliser la production du futur moteur électrique de l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi. Ce sera sur le site de Cléon et à l'origine, cela aurait dû être fait en Asie. Et puis PSA, de son côté également, s'est engagé à fortement augmenter sa production de voitures électriques et hybrides rechargeables en France. 130 000 dès 2021, avec notamment cet engagement de produire la future 3008 électrique sur le site de Sochaux.
Les précisions d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Alors comment ces annonces sont-elles perçues par les professionnels? Écoutez Luc Châtel, il est le président de la plateforme automobile qui représente les intérêts de l'ensemble de la filière en France.
Écoutez, je crois que c'est un plan qui prend en compte la gravité de la situation du secteur automobile. Si on ne faisait rien, on risquait une atonie totale du marché automobile, avec évidemment des conséquences sur la production et notamment le tissu des PME. Voilà, donc il fallait un électrochoc au niveau de la demande, il fallait des dispositifs d'incitation et je reconnais que dans ce plan, ils sont à la hauteur, ils sont au rendez-vous. Quand vous avez un bonus sur l'électrique de 7 000 euros quand vous avez une prime à la conversion qui va permettre de verdir le parc automobile, qui sera de 5 000 euros sur les véhicules électriques, mais qui sera de 3 000 euros également sur les véhicules thermiques, essence ou diesel récents, c'est-à-dire qui émettent moins de CO2, ce sont évidemment des mesures qui sont très incitatives.
Luc Châtel, le président de la plateforme automobile, notait que les syndicats, eux, ont accueilli de façon mitigée ces annonces. Ce plan n'est pas à la hauteur, déplore notamment le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. L'enseigne de prêt-à-porter Camaïeu, lourdement impactée par la crise sanitaire, est placée en redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois. Elle emploie 3 900 salariés. Chez La Halle, on se dirige également vers le placement en redressement judiciaire. Sa maison mère, Vivarte, a reçu 7 offres de reprise, mais au mieux, seuls les 2/3 des salariés seraient maintenus et des centaines de magasins fermeraient. À Paris, le grand magasin Printemps Haussmann, autorisé à rouvrir dès jeudi, le tribunal administratif a en effet suspendu l'arrêté de fermeture qui avait été émis par la préfecture de police.
Europe 1, Isabelle Millet.
Il est 22h06, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et alors que la baisse se poursuit en réanimation, l'épidémie a fait 83 nouveaux décès ces dernières 24 heures en France. Il reste 1555 patients en réanimation, 54 ont pu rentrer chez eux hier. C'est un désaveu pour le professeur Didier Raoult qui depuis le début prône, vous le savez, les vertus de l'hydroxychloroquine chez les malades du Covid-19. Et surtout un coup d'arrêt pour cette molécule en France qui ne pourra bientôt plus être administrée contre le coronavirus, ni à des patients gravement atteints, ni lors d'essais cliniques. 2 avis, en effet, vont dans ce sens, celui du Haut Conseil de la Santé publique et celui de l'Agence du médicament, Victor Dolande.
Oui, comme nous vous le révélions ce matin sur Europe 1, le Haut Conseil de la Santé publique a rendu un avis défavorable. Il faut donc arrêter les prescriptions, même encadrées, d'hydroxychloroquine pour le Covid-19. Pour rendre leur avis, les experts ont analysé plusieurs études internationales, dont celle du Lancet. Toutes arrivent aux mêmes conclusions. Il n'existe aucune certitude sur l'efficacité du traitement. En revanche, la toxicité cardiaque, elle, est bien réelle. Alors, le professeur Didier Raoult a déjà balayé l'étude du Lancet sur sa chaîne YouTube. Pour lui, cette étude est, je cite, « foireuse ». Le professeur Christian Fung-Brentano, directeur du centre d'investigation clinique APHP Sorbonne Université, le contredit.
S'il considère qu'elle est foireuse, ça veut dire qu'il considère que toute forme d'approche épidémiologique est foireuse. Je reprends l'exemple que j'ai pris à d'autres occasions. La démonstration du lien établi entre le tabac et les cancers, elle est issue d'études épidémiologiques qui ont montré une association très ancienne entre le tabagisme et le cancer. Et cette association a été confirmée comme étant causale par toute une succession d'études.
Reste maintenant au ministre de la Santé, Olivier Véran, à trancher. S'il suit l'avis du Haut Conseil de la Santé publique, il devrait prendre un nouveau décret dans les prochains jours pour limiter au maximum les prescriptions de ce médicament. Et puis, coup d'arrêt double pour l'hydroxychloroquine en France, puisque l'Agence du médicament a lancé aujourd'hui la procédure de suspension des essais cliniques. Actuellement, il y en a 16 dans le pays. Si cette procédure va à son terme, ça signifie que ces essais n'incluront plus de nouveaux patients. En revanche, pour les malades qui prennent déjà de l'hydroxychloroquine dans ces essais cliniques, il n'est pas question d'arrêter le traitement.
Victor Dolande du service Société d'Europe 1. Sommes-nous protégés du virus lorsque l'on a été malade? Vous êtes nombreux, certainement, à vous poser cette question. Eh bien, une étude menée par l'Institut Pasteur et le CHU de Strasbourg est plutôt optimiste, puisque la très grande majorité des patients, même ceux faiblement atteints, seraient immunisés. Vous nous le confirmez, docteur Jimmy Mohamed?
Et oui, c'est une bonne nouvelle puisque c'était une des grandes interrogations. Est-ce que le fait de faire des formes très légères pouvait conférer une immunité? Et là, on a testé des personnels soignants, 160 malades, qui ont fait une forme mineure de la maladie, c'est-à-dire pas besoin d'oxygène, pas besoin d'être hospitalisé. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient des anticorps à 15 jours de la maladie et que chez 98% d'entre eux, ils avaient des anticorps neutralisants, ceux qui vous protègent d'une nouvelle infection un mois après l'infection. En revanche, on ne sait absolument pas si ces anticorps vont durer longtemps, est-ce qu'ils vont vous protéger en cas de nouvelle vague, et dernière incertitude, est-ce que les gens asymptomatiques, qui auront une sérologie, seront protégés de la même façon? Mais voilà, on peut se contenter de cette nouvelle, c'est plutôt rassurant.
Merci docteur Jimmy Mohamed, que l'on retrouve tous les jours, bien sûr à 15h avec Mélanie Gomez dans l'émission Sans Rendez-vous, et tous les soirs également dans le journal de 18h sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. À 3 jours de la présentation de la phase 2 du déconfinement, les présidents des régions Hauts-de-France et Grand Est demandent leur passage en zone verte. Ils estiment en effet que la situation sanitaire ne justifie plus d'être en rouge et que cela est même dégradant. La CNIL a donc donné son feu vert aujourd'hui à la mise en place de Stop Covid, cette application de traçage de contacts pour smartphone voulue par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie. Elle estime, la CNIL, que cette application respecte les différentes dispositions législatives relatives à la protection de la vie privée. Alors les députés et les sénateurs vont maintenant en débattre et elle pourrait être mise en service très rapidement, hein, d'ici la fin de la semaine. Application qui divise toujours autant, en tout cas les Français, comme a pu le constater Johanna Chabas.
Je trouve que ça peut être un bon moyen de prévention. Il faudrait que tout le monde télécharge l'application et que ça devienne même une obligation. Comme ça, on est sûr que ça marche.
Pour moi, c'est un système de surveillance caché. Le fait de savoir qu'on est fliqué toute la journée et qu'on sache où on est, à quel moment, si tu ne suis pas pour, en tout cas.
Il faut utiliser ces données-là à bon escient. Et ça, j'en doute pas que ça sera à bon escient. C'est pour nous protéger. Mais il faut que ce soit temporaire. Et que ça se termine une fois que tout est levé, l'état d'urgence est levé.
Le problème, c'est que personne derrière va la télécharger. On ne peut pas se voiler la face, les Français sont têtus et je suis pessimiste.
Au moment où l'épidémie était très très forte, oui, je l'aurais fait. Maintenant que l'épidémie est en train de baisser, eh bien, pour le moment, je ne le ferai pas. Maintenant, j'en vois moins l'utilité.
Voilà, des Français partagés sur cette application Stop Covid au micro Europe 1 de Johanna Chabas. Notez que Cédric O, le secrétaire d'État en charge du numérique, sera l'invité d'Europe 1 demain matin avec Sonia Mabrouk à 8h15. Le Parlement a définitivement adopté ce soir par un ultime vote à l'Assemblée la proposition de loi pour accompagner les familles après le décès d'un enfant qui avait été, on s'en souvient, à l'origine d'un couac, hein, de la majorité présidentielle en début d'année. Ce texte prévoit de porter le congé pour deuil d'enfant à 15 jours ouvrés. Et le vote ce soir a été ponctué par des applaudissements. Tiens, on a retrouvé Agnès Buzyn, qui s'était fait très discrète, hein, c'est vrai, pendant l'épidémie. L'ancienne ministre de la Santé est retournée exercer à l'hôpital. Tellement discrète que certains se demandaient si elle n'allait pas abandonner la politique après ses vives critiques envers le gouvernement. Eh bien, la réponse est non. Jean-Gabriel Bourgeois, Agnès Buzyn a levé les doutes. Aujourd'hui, elle est toujours candidate à Paris.
Oui, c'est la fin du suspense. Agnès Buzyn maintient sa candidature dans la course à la mairie de Paris. Il faut dire que plusieurs de ses colistiers à qui j'ai pu parler ces dernières heures craignaient qu'elle renonce. Je suis déterminé à marteler la candidate de La République En Marche au cours d'une réunion avec les têtes de liste parisiennes en début d'après-midi. Elle a beaucoup réfléchi, elle avait besoin d'y voir clair, m'a confié l'une d'elles, rassurée. Un autre participant le reconnaît, Agnès a hésité. Mais Guillaume Poitou, tête de liste dans le 11e arrondissement, est toujours resté convaincu de l'engagement de l'ex-ministre.
Moi, j'ai jamais eu un doute sur le fait qu'elle soit candidate, qu'elle porte nos valeurs progressistes, qu'elle porte l'action du gouvernement et qu'elle se défende sur sa propre action en tant que ministre auprès des médias dans les jours qui viennent.
Car c'est bien ce qui attend Agnès Buzyn. Une interview est prévue dans les prochains jours. Elle affrontera toutes les questions, assure son équipe, ressoudée. À un mois du second tour des municipales, on a évité un nouveau psychodrame, souffle une tête de liste. Une autre acquiesce. Après l'affaire Benjamin Griveaux en février, on avait cramé la Saint-Valentin. On a réussi à sauver la prochaine fête des maires.
Jean-Gabriel Bourgeois du service politique d'Europe 1. Et pour ce second tour des municipales, désormais prévu le 28 juin, le ministre de l'Intérieur se dit prêt à étudier la possibilité d'autoriser le vote par correspondance afin qu'un maximum de Français puissent voter. 10 jours de deuil national décrétés en Espagne à partir de demain en hommage aux 27 000 victimes du coronavirus. Une grande cérémonie présidée par le roi sera par ailleurs organisée. Le déconfinement se poursuit dans de nombreux pays. Le site de Pompéi en Italie a rouvert, tout comme la basilique de la Nativité à Bethléem. Le pape François recommencera dimanche midi à réciter sa traditionnelle prière de l'Angélus depuis sa fenêtre face aux fidèles, de nouveau autorisés à se rassembler sur la place Saint-Pierre. L'Allemagne, elle, prolonge les règles de distanciation jusqu'au 29 juin. Jusqu'à 10 personnes ou 2 familles pourront se réunir au maximum dans les lieux publics. Et puis le célèbre parquet du New York Stock Exchange au cœur de Wall Street a également rouvert aujourd'hui à des traders masqués et séparés par des cloisons en plexiglas.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
On a beaucoup parlé de la recrudescence des violences conjugales pendant le confinement. En l'occurrence, cette fois, il ne s'agit pas d'un drame lié au confinement, mais un homme est soupçonné d'avoir traversé la France pour tuer son ex-femme, Marion Dubreuil.
Il a fait plus de 1000 km de route pour tuer son ex-femme. Vendredi dernier, cet homme de 43 ans retrouve son ex-compagne sur un parking de Wattigny, dans le Nord, et lui assène 6 coups de couteau sous les yeux de leur fils de 10 ans. Mis en fuite par un témoin, il rentre à Perpignan, à l'autre bout de la France. La jeune femme de 33 ans, elle, est hospitalisée dans un état grave à Lille et se voit prescrire 42 jours d'ITT. Mais elle identifie formellement son agresseur. Il s'agit de son ex-mari. Elle a déjà déposé 2 plaintes contre lui. vie pour viol et violence il y a 3 ans. Et plus récemment, pour harcèlement, il l'avait menacé de la tuer devant leur fils. Une procédure classée sans suite l'an dernier, faute d'éléments. Moins de 24 heures après la tentative d'assassinat, l'ex-conjoint est interpellé chez lui samedi à Perpignan. Les policiers ont retrouvé des armes de poing, des couteaux et des menottes dans le coffre de sa voiture.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Des nouvelles de Didier Gayaguet. Vous savez, c'est l'ancien président de la Fédération française de patinage qui avait dû démissionner en plein scandale de violences sexuelles. C'était en février dernier. Eh bien, il ne lâche rien puisque maintenant, il demande réparation à la ministre des Sports. Il s'estime victime et il réclame de grosses indemnités, Corinne Boulou.
Eh bien, pas moins de 300 000 euros sont réclamés par l'ancien patron tout puissant du patinage français pour préjudice. Son montant recouvre les 27 rémunérations mensuelles qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son mandat et une indemnisation pour réparer un préjudice d'image. Didier Gayaguet, dans ce recours administratif via ses avocats, dénonce les déclarations de Roxana Maracine et Anou et les pressions exercées par la ministre des Sports pour le contraindre à démissionner dans le cadre de violences sexuelles qui ont déstabilisé sa fédération. Didier Gayaguet le répète, il ne veut pas faire office de bouc émissaire alors qu'il estime être la victime expiatoire de dysfonctionnement de l'administration, notamment concernant l'ancien entraîneur et manager Gilles Beyer au cœur du scandale. À bientôt 67 ans, l'ancien patron du patinage reste combatif. Il a d'ailleurs refusé récemment de quitter son poste au comité olympique.
Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1. Et puis un mot de foot, et oui, parce qu'il y a des pays où l'on joue au foot en ce moment. Le Bayern Munich s'est imposé ce soir 1-0 à Dortmund à huis clos et se rapproche sérieusement du titre de champion d'Allemagne. On jette un œil sur la météo. C'est avec vous, bien sûr, Anissa Haddadi. Et pour demain, Anissa, vous prévoyez une belle journée, mais avec quand même un peu d'humidité par endroit.
Oui, effectivement, Isabelle, et ça concerne les reliefs. Alors, les Pyrénées et les Alpes sont concernés le matin avec des petites averses en altitude qui, dans l'après-midi, concerneront aussi les reliefs corses et ceux du Massif central. Alors, ce sont des averses uniquement en altitude, évidemment. À l'est, en Alsace-Franche-Comté, le vent d'est souffle à 50 km/h, mais le temps reste toujours très sec. Et partout ailleurs, c'est du grand et beau soleil pour tout le monde. Les températures, elles sont stationnaires. Le matin, nous aurons 7 degrés à Montluçon, 10 à Saint-Étienne, Strasbourg et Belfort, 12 à Grenoble, 13 à Paris, 15 à Bordeaux et Biarritz, 18 à Nice et 17 à Toulon. Et puis dans l'après-midi, ça grimpe encore demain avec 22 à 27 degrés sur le nord et l'ouest, hein, de la Normandie jusqu'au Hauts-de-France, et 25 à 30 degrés partout ailleurs. Il fera 27 à Paris.
La météo signée, Anissa Dadi.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le président des Relais et Châteaux, Philippe Gombert. A tout de suite. Et il est 22h18, tout pile, l'heure de s'intéresser à la bourse avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui débute cette semaine en hausse, hein, de retour d'un long week-end de 3 jours.
Oui, le déconfinement progressif des économies occidentales profite à Wall Street. Le Dow Jones monte de 2,17%, 24 995 points. C'est moins spectaculaire sur le Nasdaq. L'indice des valeurs de technologie monte seulement de 0,17%, 9 340 points. Ce sont surtout les compagnies aériennes qui grimpent avec la reprise progressive du trafic. On a une hausse, une forte hausse de United Airlines, plus 16%. American Airlines plus 15%, Northwest plus 12%, Southwest Airlines plus 12% aussi. En revanche, c'est plus partagé sur les valeurs de technologie, donc à la hausse IBM plus 2,8%, mais Intel est stable et Apple recule même de 0,7%, 316,73$. Le pétrole monte encore, plus 0,8%, 35,90$ le Brent, 34$ le WTI américain, ça veut dire qu'Exxon, le géant pétrolier, gagne encore près de 3%, 45,91$ ce soir. Et puis sur les devises, l'euro se porte plutôt bien. Il grimpe proche des 1,10, 1,0995 face au dollar.
Et à la Bourse de Paris, Didier, le CAC 40 est repassé au-dessus des 4600 points. Le secteur automobile a fortement progressé, hein, en réponse, bien sûr, au plan de soutien présenté par le chef de l'État aujourd'hui.
Oui, 4606 points exactement sur le CAC 40, plus 1,46% après une progression de plus de 2% hier. Le déconfinement progressif des économies occidentales, là aussi, inspire les marchés. Et puis, oui, le secteur automobile a largement profité des annonces d'Emmanuel Macron, puisque tout le secteur s'envole ce soir, en particulier les équipementiers déjà très engagés dans la transition écologique. On a Valeo, où s'est rendu le chef de l'État cet après-midi, Valeo qui gagne 10%, Faurecia plus 6,5%, et puis Renault remonte aussi de 6%, Peugeot plus 5,5%. On a aussi les grandes sociétés foncières qui détiennent les murs de nombreux centres commerciaux qui sont en train de rouvrir, qui montent comme Klépierre, plus 12%, Unibail, plus 11%, ou Mercialis, plus 10%. Et puis l'aéronautique aussi, avec la reprise des vols, on a ADP, plus 12% pour ADP, Air France, plus 10%, et puis Airbus, plus 7% à la clôture ce soir.
En revanche, le réassureur Score a lui terminé en repli.
C'est la petite déception du jour. Il n'y a pas de casse, moins 1,8%, une baisse, 23,95 €, une baisse modérée, on va dire. Le groupe a annoncé qu'il ne distribuera pas de dividendes au titre de l'exercice écoulé, en raison évidemment de la crise sanitaire, dans une logique de prudence. Initialement, le coupon devait être de 1,80 € par action. Score donc qui recule ce soir d'1,8% à la clôture. Sur les autres places financières, ça monte partout. Forte hausse même à Bruxelles de plus de 5%. Madrid, plus 2,1%. Milan, plus 1,5%. Francfort, plus 1%. Et le CAC 40 donc en hausse d'1,46%. 4606 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Didier Hameau de Boursier.com. Il est temps de retrouver Emmanuel Dutheil et son invité. Emmanuel, vous recevez ce soir le président des Relais et Châteaux.
Bonsoir Philippe Gombert.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête des Relais et Châteaux. Alors Relais et Châteaux, c'est 580 établissements dans le monde. Il y en a 154 en France. Vous êtes présent dans 70 pays. Tout le monde est prêt à rouvrir là d'ici quelques jours. Peut-être à partir du 2 juin dans peut-être les zones vertes, il y aura peut-être des différences. Déjà, est-ce que vous avez des informations? Est-ce qu'on vous a communiqué des informations sur cette probable réouverture?
Ce que nous pensons, c'est qu'il y aura une réouverture pour les restaurants, ce qu'on appelle en zone verte, à partir du 2 juin. Le déconfinement, on nous l'a bien annoncé, se fait de manière progressive. Ce qui bloque aujourd'hui le plus nos membres hôteliers et restaurateurs, c'est la limite des 100 km. Il y a les restaurants d'un côté, mais la limitation qui demeure encore pour quelques semaines est un obstacle pour la visibilité des réservations d'été. Mais enfin, c'est déjà un mieux.
C'est déjà un mieux. Justement, regardons quand même un petit peu les réservations. Pour le moment, vous avez quoi? Des gens qui vous appellent et qui vous disent « si jamais ils lèvent les 100 km, je viendrai peut-être » ou vous avez quand même déjà des gens qui disent « si vous m'assurez que je serai remboursé si jamais je ne peux pas venir, je réserve ».
Oui, alors c'est très exactement ce que nous faisons et ce que nous constatons. Nous avons adopté des politiques d'annulation très souples qui garantissent la possibilité d'annulation sans frais et donc par conséquent sans risque si les conditions sanitaires l'imposaient. Donc ça permet à nos clients de se projeter et de réserver sans crainte. Donc ça, nous l'observons. Nous observons aussi pour quand même la première fois depuis 3 mois que les réservations commencent à redémarrer sur notre site en ligne et également, alors là, une activité très forte, c'est peut-être d'ailleurs l'approche de la fête des mères qui a été reportée au 7 juin, nous constatons une augmentation de toutes nos ventes de coffrets en ligne.
Vous avez l'avantage d'avoir des lieux extraordinaires, souvent très reculés des grandes villes où la distanciation sociale est quand même beaucoup plus facile.
Oui, alors on sent effectivement une demande pour la campagne, on sent une demande pour les grands espaces, mais les grands espaces aussi du bord de l'océan, de la côte normande jusqu'à la côte basque, en passant par l'île de Ré. Donc effectivement, on sent cette envie de grand air qui, il faut dire qu'après 2 mois de confinement, il y a besoin d'air, mais aussi on sent un besoin d'exercice, de vélo, de marche, de forêt. Donc il y a toutes ces questions qui viennent. Vous savez, 60% des relais et châteaux sont situés dans des zones protégées par l'UNESCO ou même certaines inscrites au patrimoine mondial de l'humanité. Donc ça fait beaucoup de lieux à découvrir.
De façon très concrète, alors j'imagine que c'est beaucoup plus simple chez vous quand on a de grands espaces où déjà on a des tables gastronomiques qui ne sont pas collées, donc c'est sûrement plus facile de respecter les fameux gestes barrières. Mais est-ce que vous pensez que vous serez capable de continuer à recevoir du monde en respectant les gestes barrières dans les restaurants et dans les hôtels que vous représentez?
Alors pour nous, vraiment, la question de la distanciation sociale n'est pas un problème. Nous avons beaucoup d'espace, mais aussi on a beaucoup d'idées. Moi, je suis très impressionné par l'imagination créative de nos chefs qui, depuis 2-3 mois, font la cuisine chez eux pour leurs clients, leurs amis. Mais ils ont une envie incroyable de redémarrer. Ce sont des capitaines d'équipe. Et donc, l'équipe est derrière qui pousse et ils n'attendent que ça de redémarrer.
Ça a beau être très cher d'aller dans un relais château, ça coûte très cher aussi à faire tourner. Est-ce que vous pensez qu'ils vont tous être capables de passer la crise?
Alors, très honnêtement, nous l'espérons. Nous l'espérons d'abord parce que ce sont souvent des entreprises familiales, solides. Ensuite, parce qu'il y a eu tout de même, il faut le reconnaître, une aide importante des pouvoirs publics pour passer le cap. Ce qui inquiète certains de nos membres, c'est plutôt l'hiver prochain. Parce qu'il y a dans nos activités une saisonnalité, des maisons qui ouvrent à Pâques, par exemple, pour terminer, pour fermer à la Toussaint. Et là, on peut dire qu'au moins plus de la moitié de la saison aura été une période de fermeture. Donc, comment faire pour toutes les équipes qui vont devoir passer l'hiver prochain avec des trésoreries affaiblies? Donc là, il y a un enjeu véritable, mais j'ai tout de même espoir que le maintien des mesures d'aide gouvernementale permettra de passer ce cap. C'est indispensable pour, si l'on veut que la France conserve son rang de première destination touristique au monde.
Mais l'autre gros problème, c'est-à-dire que dans votre activité, il y a effectivement les touristes français, hein, il y a beaucoup de touristes étrangers aussi qui viennent, qui ne seront sûrement pas là cet été. Et puis surtout, il n'y aura pas du tout, et sûrement pendant très longtemps, le business des séminaires qui permettent à ces lieux de tenir le reste de l'année.
Alors, c'est certain que ça va poser un problème pour un certain nombre d'hôtels et de restaurants, mais en ce qui concerne les relais et châteaux, un peu plus de, en moyenne, de 86% de leur activité était une activité qu'on la qualifie de loisir comparée à une activité séminaire. Alors, je ne dis pas que le séminaire ne compte pas pour un certain nombre de nos membres, relais et châteaux, bien sûr, mais ça, c'est quand même un petit peu plus marginal, de sorte qu'il devrait être moins impacté. Mais l'activité séminaire, vous avez raison, sera lourdement impactée dans les années qui viennent.
Hein. Vous avez lancé un appel pour que les gens restent plus longtemps que ce qu'ils auraient pu imaginer pour des séjours longs. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu au moment où les Français sont invités à rester en vacances en France?
Oui, je le crois. Je crois que ce que nous observons, en tout cas, dans les réservations que nous avons enregistrées, c'est un petit peu moins d'itinérance. Alors, il y aura bien sûr une ou deux itinérances ou trois. Nous avons, nous d'ailleurs, autour de nos maisons, ce qu'on appelle des routes du bonheur, qui permettent de circuler d'une maison à l'autre. Mais l'on sent quand même qu'il y a une volonté de passer 8 jours ici, 4 jours là, donc des séjours plus longs pour cet été.
Eh bien, merci beaucoup à Philippe Gombert, le président des Relais Châteaux, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.
Effectivement, on vous dit à demain. Merci à vous, Emmanuel Dutheil.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et voici ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Un visage dans la pénombre, à la une de Libération. Ce visage, c'est celui du professeur Didier Raoult, accompagné de ce titre « Chloroquine, la pilule sans lendemain ». Un article sévère dans The Lancet. Le holà mis par l'OMS et le Haut Conseil de Santé. Le traitement défendu par le professeur Raoult a paru comme un vrai espoir au début de l'épidémie. Suscite désormais de plus en plus de controverses. Son utilisation sera même interdite pour traiter les malades. Faut-il croire à la fin prochaine de l'épidémie, s'interroge le Figaro. 2 semaines après la fin du déconfinement, tous les indicateurs sont au vert et montrent le recul du Covid-19 sur le territoire. Une embellie qui pousse à accélérer le déconfinement. Un plan pour doper la production de voitures électriques, c'est le titre des Échos. On en parlait tout à l'heure dans votre journal. Automobile, une relance à 8 milliards pour Ouest-France. Tandis que le journal L'Opinion s'interroge, de l'argent magique peut-il tomber du ciel? Les emprunts publics être annulés sans souci? En France, ce débat fou agite le monde des économistes et des politiques. Qui paiera la facture de la crise? La question enfle au fur et à mesure que s'enchaînent les plans de soutien. Lundi, hier donc, le tourisme, 18 milliards d'euros. Aujourd'hui, l'automobile, 8 milliards. Et jeudi, l'aéronautique, qui viendront s'ajouter aux dizaines de milliards d'euros déjà inscrits dans le dernier projet de loi de finances rectificative. Famine, la menace. Avec la pandémie de Covid-19, la faim sévit aux quatre coins de la planète, écrit le journal La Croix, n'épargnant aucun continent ni aucune génération. Toute l'économie mondiale a été paralysée, entraînant aujourd'hui une hausse du chômage sans précédent. En France, les associations constatent que les besoins en aide alimentaire sont en progression depuis le début du confinement. Et puis Didier Deschamps est à la une d'aujourd'hui en France. Arrêter le championnat, une décision sage. Interview exclusive du sélectionneur des Bleus, arrêt de la Ligue 1, report de l'Euro, match à huis clos. Didier Deschamps s'exprime pour la première fois au sujet de l'impact de la pandémie sur le foot. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques.